Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 22 août à Saint-Jodard.
Ce que je vous disais hier, la vérité, conformité de ce que nous pensons, de ce que nous disons par rapport à la réalité. La réalité pour le théologien, c'est le mystère révélé. Donc, le critère de la vérité en théologie, c'est la révélation. Est-ce que nous disons est conforme à ce qui est révélé, gardé dans l'Écriture et gardé dans la tradition et précisé par le magistère? Le théologien, je vous ai dit, ne fait pas œuvre originale. Il est dans une science subalternée à la vision béatifique. Et donc, il ne peut être dans la vérité que si ce qu'il dit est conforme à la tradition, à ce qui est révélé, l'Écriture et l'enseignement actuel de l'Église. Autre question. Pouvez-vous préciser la notion d'ontologisme? Oui, j'ai parlé d'ontologisme. Alors, ça, c'est une expression philosophique. Donc, c'est une classification des philosophes. On parle de l'ontologisme de Malebranche. On parle de l'ontologisme de Platon. On parle de l'ontologisme de Descartes. D'une façon générale, l'ontologisme, c'est une philosophie qui va commencer par les idées. Et Platon, les formes idéales que nous portons en nous. Et on développe à partir de là toute une philosophie. Descartes, les idées innées. Malebranche, la vision en Dieu. C'est encore des idées innées. Je vois toute chose en Dieu. Il a bien de la chance. Moi, je ne vois pas toute chose en Dieu. Dans un jugement de sagesse, j'essaie de voir par rapport à l'affirmation Dieu est créateur. Et c'est à partir de là que je juge les choses. Ça, c'est un jugement de sagesse. Je crois qu'on peut dire que l'ontologisme confond la voie d'invention et la voie de sagesse. L'ontologie, vous voyez, c'est proche des idéologies. L'ontologie donne naissance aux idéologies. Alors, personnellement, ça c'est une idée personnelle. Je vous l'ai dit pour ce que ça vaut. L'ontologie donne naissance aux idéologies. Les idéologies athées. L'ontologie, dans ce qu'il a de plus parfait, ce sera Hegel. Hegel le dit. Toute sa philosophie, c'est une preuve ontologique de Dieu. Avec Hegel, on est en face d'un ontologisme à l'état parfait. Il n'y a pas eu d'ontologisme plus parfait que la philosophie hegelienne. Or, on dit que Hegel donne naissance à une idéologie de gauche, à athée et une idéologie de droite. Parce que l'ontologisme est plutôt de droite. C'est-à-dire que l'ontologisme regarde l'existence de Dieu. Platon. Les formes idéales me conduisent à Dieu. Descartes. Les idées innées me conduisent à Dieu. Il n'y a plus besoin de preuves de l'existence de Dieu, parce que à travers les idées, je suis conduit immédiatement à Dieu. Pour Descartes, on a l'idée d'infini, l'idée de liberté, et ces idées d'infini, qui sont des idées innées, le petit enfant, dans son berceau, il a l'idée d'infini. C'est pour ça qu'il crie quand le biberon n'est pas présent. Parce qu'il a l'idée d'infini. Il a l'idée de liberté. Alors on le ligote. Donc il crie. L'idée d'infini conduit à Dieu. Dieu est présent dans cette idée d'infini. Dieu est présent dans cette idée de liberté. Plus besoin de démonstration de l'existence de Dieu. Et c'est pour ça qu'au fond, l'ontologisme, c'est une idéologie. Mais on ne le dit pas habituellement, mais c'est une idéologie. Puisque c'est l'idée qui est mesure de la vérité. Le développement se prend du côté des idées. Et les idéologies athées, c'est encore un ontologisme. Un ontologiste de gauche. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que l'ontologisme est le lit de l'athéisme. Il y a un lien entre les deux. L'ontologisme et l'idéologie, c'est la même chose. La philosophie d'Aristote commence par l'expérience. Vous avez tous remarqué, j'espère, dans la lecture de midi, quand on dit que saint Thomas réhabilite Aristote et réhabilite une philosophie réaliste, l'auteur qui n'est pas philosophe, ça se voit, bah, mais il est astucieux, alors il nous fait rire, c'est ce qu'il faut. Il dit que l'intelligence est déterminée par les sensations. C'est faux. L'intelligence est déterminée par ce qui est, que j'atteins par les sensations. Ce n'est pas le rouge qui détermine l'intelligence. Ce n'est pas le son qui détermine l'intelligence. C'est la réalité existante. Et c'est pour ça que c'est la réalité existante qui mesure et qui est la mesure de la vérité. Ce n'est pas mes sensations. Ça, c'est une petite précision qu'il faut faire attention. J'aurais corrigé en tant que professeur de philosophie. J'en ai attention, là, c'est pas tout à fait juste. S'il m'avait fait lire son manuscrit avant, j'aurais dit non, c'est pas ça. C'est la réalité atteinte par mes sensations et par l'intelligence qui est la mesure de la réalité. La sensation conditionne, mais ne détermine pas. Vous êtes très attentif à cette petite distinction. Ce qui détermine l'intelligence, c'est l'objet de l'intelligence. Ce qui conditionne, c'est ma manière de l'atteindre. Bon, donc vous voyez, ontologisme et idéologie, ordinairement, l'ontologisme, ce sont les idéologies de droite. Là, de gauche. Et on dit de gauche parce que c'est athée. D'où révolutionnaire. Ici, très traditionnalisme. Les ontologismes sont des traditionalistes, au sens péjoratif. Vous voyez, comme on dit, les deux s'opposent. Mais c'est très important de voir que l'athéisme a été préparé par l'ontologisme. Et vous allez tout de suite comprendre. C'est que dans la vision de l'ontologisme, l'homme est relatif à Dieu. Et donc, l'homme n'est parfait que lorsqu'il est uni à Dieu. Je ne peux pas définir l'homme sans Dieu. Dans Malebranche, c'est très net. Dans Descartes aussi. Dans Platon également. L'homme, c'est le contemplatif qui contemple Dieu. Il y a quelque chose de juste, hein ? Eh bien, les idéologies athées s'opposent violemment à cela et se présentent comme une libération de l'homme. Il faut libérer l'homme de ce carcan terrible qu'il se définit relatif à Dieu. Et il faut donner à l'homme toute sa véritable dimension. Il y a quelque chose de juste. L'homme ne se définit pas dans sa relation à Dieu. Mais l'homme n'est parfait que parce qu'il rejoint Dieu. Et ça, c'est très subtil, mais c'est très important à saisir. Vous voyez ? Au fond, il y a trois grandes positions philosophiques. La philosophie réaliste, qui part de l'expérience. Alors, Héraclite, avant Hésiode. Hésiode est un réaliste. Très poète, mais il est réaliste. Héraclite, Aristote. Puis ensuite, vous avez Thomas d'Aquin. Il a de très bons ancêtres, Aristote, Héraclite, Hésiode. Alors évidemment, Hésiode, c'est Héraclite, c'est encore très très élémentaire. Aristote, au contraire, après Platon, c'est les deux grandes philosophies grecques. Et la troisième, c'est Plotin. Platon, donc faisons attention, saint Thomas n'est pas dans l'ontologisme. Mettez-le ici. L'ancêtre de l'ontologisme, Platon. Avant Parménide. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, ce sont des très grands philosophes. Mais il y a un certain ontologisme. Pour Parménide, l'être qu'il découvre, c'est Dieu. La pensée qui découvre, c'est la pensée divine. C'est en ce sens-là que c'est ontologisme. Platon. Vous avez ensuite, comme grand théologien, saint Anselme. Je n'oserais pas dire que sa bonne aventure, c'est de l'ontologisme. Je dirais que sa Bonaventure, c'est une théologie mystique. C'est différent. Donc saint Anselme. Puis vous avez ensuite, alors, je crois qu'on peut dire, il est évident qu'au point de vue philosophique, vous avez Malebranche, scatologisme a son sommet dans Hegel. Nouvelle forme d'ontologisme, les idéologies athées. Après Hegel, l'éclatement de toutes ces idéologies athées, qui restent en communion avec Hegel par l'ontologisme, par la dialectique. Tandis que la pensée d'Aristote et Thomas d'Aquin, c'est l'analogie. Oui, en très gros, vous avez trois grandes formes de philosophie. Une philosophie réaliste, et puis deux espèces de philosophie d'idéologie. Celle de droite, celle de gauche. Je crois que c'est important pour comprendre l'idéologie athée. Quand je regarde les idéologies athées, regardez Feuerbach. Quel grand philosophe athée, l'idéologie athée. Après Hegel. C'est très net. C'est un ontologisme renversé. Donc vous voyez ce que c'est que l'ontologisme, hein ? C'est lorsque je considère que l'idée, c'est la réalité. Un manque de distinction entre ce qui est connu et la réalité connue. Je vous dis, Kant est le critique par excellence de l'ontologisme. Critique très sévère. Et c'est pour ça du reste que Hegel et celui qui a critiqué de la manière la plus violente, Kant. Et après Hegel, Nietzsche, dans les idéologies athées, il critique violemment Kant, comme le pire des imbéciles. C'est très curieux. C'est pour ça que certains philosophes réalistes mettront Kant de leur côté. Alors que dans Kant, on ne peut pas dire que c'est un réalisme absolu. C'est une mixture des deux. C'est très mystérieux. N'y a-t-il pas, dans le développement de l'intelligence philosophique et théologique, un risque de mise en veilleuse de la foi ? Oui, c'est sûr. On risque d'exagérer la servante, et de voir que la servante est féconde et que la femme légitime ne l'est pas. D'où le drame. Il est bien évident que notre intelligence, on voit immédiatement sa fécondité, tandis que la foi reste toujours une connaissance obscure. La foi ne séduit pas. L'intelligence peut séduire. Une intelligence qui ne cherche plus la vérité séduit. Une intelligence qui cherche la vérité ne séduit pas, puisqu'elle cherche la vérité. Et alors à ce moment-là, elle accepte d'être servante de la foi. Une intelligence qui ne cherche plus la vérité, elle séduit et elle n'est plus servante. Alors, d'autres questions posées aujourd'hui, celles-là aussi sont posées aujourd'hui, mais à propos de la théologie mystique, donc c'est tout à fait différent, c'est hier au soir. Le problème d'hier au soir, ce que j'ai exposé hier au soir, je ne reviens pas dessus, mais je vais revenir un instant sur la théologie mystique. question posée est très juste. Vous avez dit que la théologie mystique a plusieurs façons d'ordonner. Est-elle encore du domaine de la science, du nécessaire? N'est-elle pas une spiritualité parmi d'autres? Elle veut être théologie. Très facilement, elle glissera vers une spiritualité. Elle est sagesse et non pas science. Et c'est pour ça qu'elle a toujours besoin de la théologie scientifique pour garder un ordre théologal. Parce qu'elle est beaucoup plus descriptive, comme toute sagesse. Elle est beaucoup plus descriptive. Vous le verrez du reste. On en fera un peu. Et vous verrez que c'est beaucoup plus descriptif. Ça n'a pas la rigueur de la science. Mais s'il y a la théologie scientifique à la racine, alors à ce moment-là, cette description s'appuie sur le point de vue de la science. Vous voyez ? On posera ce soir, je ne veux pas anticiper, mais un problème qui, je crois, va nous aider beaucoup à comprendre la différence entre la théologie mystique et la théologie scientifique. Donc je n'insiste pas plus. Si l'intelligence n'a pas été affectée par le péché originel, l'erreur existe pourtant. Oui, je ne suis pas infaillible. Personne d'entre nous, ni au plan philosophique, ni au plan théologique. L'infaillibilité est un privilège, non pas des cardinaux, non pas des évêques, mais du Saint-Père. En matière de foi, c'est la fameuse question qui a été traitée au Moyen-Âge, savoir si un pape pouvait être hérétique. Je prierai pour que ta foi ne défaille pas. Quand on prétend qu'un pape est hérétique, on est soi-même hérétique. Il y a l'affirmation de l'alliance particulière de Jésus avec Pierre. C'est Jésus qui a choisi Pierre. Il n'a pas fait voter le collège cardinaliste des apôtres. Non. S'il avait fait voter le collège cardinaliste des apôtres, je crois que Pierre ne serait pas sorti. Et c'est pour ça que Jésus a choisi. C'est bien évident. Pierre vient de renier. Choisir quelqu'un qui a été intimidé par le ricanement de la servante. Toi aussi, tu es galiléen. Toi aussi, la servante qui dit ça. Et le pauvre Pierre, il s'est mis à trembler. C'est pas fameux, hein. Jésus a choisi Pierre, même tu, par trois fois. Fais paître mes agneaux, fais paître mes brebis. Alors, le pape a reçu, Pierre a reçu du Christ une grâce particulière pour faire paître les brebis et donc les mener dans les gras pâturages, ou dans les moins gras pâturages, ou les faire mener quelquefois dans une sécheresse. Alors c'est sûr, en les avertissant. Donc l'erreur peut exister parce que l'intelligence n'est pas infaillible, et que l'intelligence est en puissance. Aristote dit que l'intelligence au point de départ est tabula rasa, c'est-à-dire un tableau noir sur lequel rien n'est écrit. ou un tableau blanc sur lequel rien n'est écrit. Puisqu'il y a deux sortes de tableaux aujourd'hui. Il y a les tableaux noirs et les tableaux blancs. Pour respecter l'Afrique. Je vous affirme, vous êtes à cause de ça. Est-ce que j'ai vu ça? Mais c'était très curieux. J'ai vu ça au Sénégal. Parce qu'il y avait le cré, comprenez. Et le gosse sortait avec l'autre gosse derrière. Et il servait de son dos pour répéter la leçon. Alors, on était très astucieux d'avoir fait un tableau blanc. Vous montrez que ça n'avait rien à voir. Alors, un tableau blanc, vous prenez des craies rouges. Alors, il faut un troisième tableau, tableau rouge. Avec des craies noires. Bon, l'exemple en blague, hein. Il faut bien de temps en temps. L'intelligence aime l'humour. Et il faut de l'humour pour comprendre que l'intelligence tabula rasa. Donc, rien n'est écrit dessus. Et par le fait même, qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est tout ce que l'expérience amène à l'intelligence. Toutes les images qui viennent déterminer l'intelligence. Grâce à la lumière naturelle que j'ai pour éclairer ces images. C'est toute la question de l'intellect agent et de l'intellect possible, je ne le traite pas ici, hein, mais qui montre que l'intelligence implique un devenir. Je deviens intelligent. Vous voyez, la réclame pour les sessions philosophiques et théologiques. Si vous voulez venir être intelligent, venez à ces sessions. Et vous viendrez progressivement intelligent. On ne vous promet pas une intelligence absolue au terme, mais vous deviendrez intelligent. C'était ce que disait, paraît-il, c'était le père de Haut qui m'a raconté ça. Il y avait un professeur qui était particulièrement difficile à suivre. Alors, quand il voyait que les étudiants ne suivaient plus, il leur disait « Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Dieu seul, comme dit saint Augustin, est le maître intérieur qui donne l'intelligence. Le maître humain ne peut donner que l'intelligible, selon un certain ordre. Mais il ne peut pas donner l'intelligence, mais il actue. Mais c'est la différence de suivre un cours que de lire un livre. Suivre un cours, normalement, le professeur pense au moment où il parle. Et en pensant, il actue vos intelligences par le dire, par ce qu'il dit. Alors, ça vous aide à progresser. Notre intelligence est faite pour progresser jusqu'à la vision béatifique. Notre intelligence est faite pour s'orienter vers Dieu. Cette magnifique définition qui n'est pas une définition de saint Thomas de l'intelligence. L'intelligence capax dei. L'intelligence naturellement est ouverte à Dieu. Capax dei. S'orienter vers Dieu, naturellement, indépendamment de la grâce. Et c'est pour ça qu'elle peut affirmer l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Mais ça, c'est le regard critique du théologien. Pour bien nous faire comprendre que la foi est une greffe, mais qu'il y a une certaine connaturalité entre la foi et l'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence ne rejette pas la foi comme s'il s'agissait d'un organe complètement autre. Vous savez bien, les rejets des greffes, c'est très impressionnant, du reste. Quand la greffe n'est pas assez en code naturalité, alors il y a un rejet. Et c'est ce qui existe aujourd'hui. Quand l'intelligence humaine est déterminée par les idéologies athées, la foi est rejetée. Parce qu'il n'y a plus de connaturalité entre mon intelligence transformée par les idéologies athées et la foi. La foi est reçue dans l'intelligence. Mon intelligence, même celle d'un marxiste, reste une intelligence humaine. Mais de mon intelligence est blessée, est abîmée par les idéologies athées. Et cet exercice de l'intelligence n'a plus rien de commun avec la foi. D'où le rejet. On a tous vu ça. J'ai vu à Fribourg des étudiants venant de l'autre côté du rideau de fer qui avaient été formés par l'idéologie athée marxiste et qui avaient une peine énorme de redécouvrir l'intelligence dans son état natif. Or, la foi est donnée à l'intelligence dans son état natif. Alors, ces étudiants voulaient croire, mais l'exercice de leur intelligence était tellement lié à l'idéologie marxiste que, de fait, instinctivement, c'était une dialectique qui revenait tout le temps et ils opposaient tout le temps thèse, antithèse, tout le temps, tout le temps. Ils avaient donc une peine énorme à croire. C'était quelquefois bouleversant. Ils en pleuraient presque. Je veux croire. Je veux être chrétien. J'ai déjà cité cet exemple plusieurs fois parce qu'il m'a beaucoup frappé. Quand j'enseignais au Saulchoir avant d'aller à Fribourg, et puis j'ai fait 5 ans, même 10 ans, le Saulchoir et Fribourg. Au Saulchoir, c'était le grand collège dominicain. On me demandait, et j'aimais beaucoup, d'enseigner en première année la logique. Et j'enseignais en première année la logique. Donc je voyais arriver les novices. Une année, je me suis trouvé devant 10, 12, je crois. Et dedans, il y avait un canard, intellectuellement parlant. Les autres, c'est des novices avides de comprendre. Lui, je ne savais pas s'il suivait ou s'il ne suivait pas. Au bout de 15 jours, il vient me voir. Il dit, mon père, vous savez qui je suis? Je dis, non, je ne sais pas qui vous êtes. Ah, vous n'avez pas reçu un fichier sur moi? J'aurais pu le demander, mais j'aime mieux vous découvrir, chacun individuellement, que d'avoir des idées préconçues. Je n'ai pas une philosophie affiche. Quand il s'agit des hommes, j'essaie de les découvrir. Ah, tout de suite, ah, il s'est ouvert. Eh bien, il m'a dit, mon grand-père était marxiste, mon père était marxiste, moi-même j'étais marxiste, je suis un converti. Il m'a raconté sa conversion, faisant une licence de géographie humaine à Paris. Un beau jour, montant dans sa petite chambre d'étudiant, il s'est mis à genoux. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis à genoux, j'ai adoré le Christ. Pendant une heure, je suis resté incapable de me lever. Et quand je me suis relevé, j'ai dit, je crois dans le Christ, mon sauveur. Je me suis dit, avec qui je vais parler aussi? J'ai une intelligence marxiste et j'ai la foi. Là, il m'a dit cette chose admirable. L'Esprit Saint a converti mon cœur, mais il me laisse le soin de rectifier mon intelligence. Ah, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Parce que c'était dit avec netteté. Et j'ai vu combien c'était vrai. Le Saint-Esprit ne convertit pas notre intelligence. Il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Il a ajouté, je suis dominicain parce que un de mes professeurs marxistes, Lefebvre, bien connu, qui 10 ans après la guerre a écrit un livre sur l'évolution du marxisme en France. Et à cause de ce livre, il a été rayé du parti. Parce qu'un marxiste n'a pas le droit de faire la critique de l'évolution du marxisme. En faisant ça, il n'était plus marxiste. Et ce professeur avait dit une fois dans un cours, il ne s'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous voyez ça, quelquefois, du bon, les professeurs. Il a dit, il y a 2 métaphysiques possibles. C'est assez beau, de la part d'un marxiste. Intelligent, Lefebvre est connu pour être, c'était un des marxistes les plus intelligents français. Il y a 2 métaphysique possible, celle de Marx et celle de Thomas d'Aquin. Parce que tous les 2 sont aristotéliciens. C'est joli. Alors lui, se convertissant, le cœur converti au Christ, il s'est dit, eh bien maintenant, il faut que j'apprenne Thomas d'Aquin. Il faut que je vois ce que c'est que Thomas d'Aquin. La métaphysique de Thomas d'Aquin. Alors il a sonné à la porte, après avoir été baptisé. Mais très peu de temps après, il a sonné à la porte d'un couvent dominicain. En disant, je voudrais entrer dans l'ordre pour voir ce qu'est Thomas d'Aquin. C'est joli comme vocation. Mais je l'ai eu comme étudiant. Après son noviciat. Alors évidemment, quand j'ai su ça, vous comprenez que le cours était très dirigé. Très, très dirigé. Le canard devenait le premier en premier lieu. C'était mon petit canard. D'autres étaient de bons poulets qui grossissaient normalement. Avec lui, je vous affirme, hein, je lui ai dit chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, venez me voir. beau jour, c'était un cours de logique sur l'être de raison, j'ai dit, j'irai très vite, parce que c'est pas commode. Il est venu me voir, il m'a dit, je voudrais que vous insistiez, parce que je sens que si je comprends ce que c'est que l'être de raison, je ne pourrai plus être marxiste. Alors j'ai dit, vous avez bien raison, c'est exactement là le point. Pour un marxiste, il y a, puisqu'ils sont ontologistes, la méthode dialectique donne la vérité. Et la méthode dialectique, elle provient de l'intelligence. Et donc, ce qui est connu est identique à la réalité connue. C'est propre du marxisme. C'est ça que ça nous déroute complètement. C'est pour ça que les vérités sont successives. Tout dépend du moment dialectique où vous êtes. Ça se développe. Et donc, il n'y a pas d'être de raison. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de logique. La philosophie dialectique, c'est la philosophie et la logique. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Il avait très bien compris. Oui, je crois que c'est très vrai, ça. L'Esprit Saint convertit notre cœur, il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Et il fait ça même pour les théologiens. Or, le milieu dans lequel nous sommes, le milieu moderne, il est bombardé des sept idéologies athées et de l'hégélianisme. Nous sommes hégéliens sans le savoir. Le freudisme est hégélien sans le savoir parce qu'il emploie une dialectique. J'ai dit ça une fois à une freudienne très intelligente à Paris, avec qui je dialoguais depuis déjà un certain temps. J'ai dit, vous êtes hégélienne. Elle dit, mais je ne sais pas ce que c'est qu'Hegel. Je dis, mais vous êtes freudienne. Et vous avez un raisonnement dialectique, exactement comme celui d'Hegel. Là, j'ai dû lui montrer. Parce qu'elle voulait la vérité. Elle voulait chercher. Elle voulait un dialogue entre Freud et Aristote. Alors moi, je faisais revivre Aristote. En faisant revivre Aristote, j'avais le droit de dialoguer avec elle qui faisait revivre Freud. C'était une freudienne très intelligente. J'avais rencontré une freudienne plus intelligente qu'elle, qui faisait de l'analyse du matin jusqu'au soir. 10 heures d'analyse par jour. Elle regardait de pauvres patients qui étaient sur le divan. Mais c'était très intéressant. Je ne suis pas mis sur le divan. Je suis resté debout. Et je ne lui ai pas demandé de se mettre sur le divan. Bien qu'elle avait été psychanalysée. Tout bon psychanalyste sont psychanalysés avant. Et c'est vrai, la dialectique hegélienne est présente dans toutes les idéologies athées. C'est ça qui est très important à comprendre. Bien, on est bombardé de ça. Et sans le savoir, on respire une culture qui est entièrement transformée par la dialectique hegélienne, sans le savoir. Vous voyez, on parle beaucoup du milieu dans lequel on est, qui est complètement abîmé. L'air, la mer et la culture. Dialectique, si vous critiquez la dialectique, j'ai fait l'essai, si vous critiquez la dialectique, aucun éditeur n'accepte aujourd'hui. C'est le chiffre de la bête. très très curieux. Vous ne pouvez pas critiquer la dialectique hegelienne. C'est impossible. J'ai vu des dominicains très intelligents dire Hegel, c'est génial, c'est faux. Surtout, ne faites pas une nouvelle théologie en vous servant d'Hegel. Vous perdrez la foi. C'était Père Dubarc qui disait ça. Il connaissait bien Hegel. Mais alors quand on lui demandait, alors critiquez Hegel, Aristèse, je n'ose pas critiquer Hegel. Alors que Hegel, c'est l'ontologisme dans ce qu'il a de plus parfait. Il critiquait Malebranche, mais il n'osait pas critiquer Hegel. Dialectique parfaite. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on est dans ce climat. Et alors, comme on est dans ce climat, il faut comprendre que le Christ et l'Esprit Saint s'emparent de notre cœur, mais ils nous laissent le soin de purifier notre intelligence. Parce que si notre intelligence est marquée par Hegel, la dialectique hegelienne, l'exercice de notre intelligence va progressivement évacuer la foi. Très très curieux, ça. C'est le phénomène d'aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre comment notre intelligence est marquée par le péché à cause de notre affectivité, à cause de notre volonté qui, elle, est blessée. Et alors, nous devenons paresseux. Conséquence du péché originel, ça. On ne cherche plus la vérité. C'est tellement difficile. Alors, ne cherchant plus la vérité, on fait comme tout le monde. On descend le fleuve et on ne cherche pas la source. Et quand on descend le fleuve, on se met à la mode du jour. Et la mode du jour, c'est la dialectique. Il faut réfléchir à ça. Bon, je continue maintenant. Ce que nous avons commencé, nous avons essayé de regarder très rapidement, je vais aller très vite, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont très très avides, qu'on commence tout de suite le traité du Christ. La prima pars de saint Thomas regarde le traité de Dieu à le traité de la création avec la création, le traité de la création des anges, des hommes, le traité péché. Traité de la création, simplement, pardon. De l'univers. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle la prima pars. La seconde partie, la seconda, regarde l'image de Dieu. L'homme vu dans une perspective de foi, c'est l'image de Dieu. L'homme écrit à l'image de Dieu. L'homme, dans son retour vers Dieu, alors, on divise la seconda pars en deux parties. La prima, secundae, c'est-à-dire la première partie de la seconde partie. En latin, ça va mieux. Prima secundae. La première partie de la seconde partie. C'est le bonheur. L'homme est fait pour le bonheur. Puis l'acte humain, les passions, le péché, la grâce, la loi, la grâce. Bon. Et la seconda, la seconde partie de la seconde partie, de la secundae, c'est alors, ici, c'est l'aspect commun de l'homme dans son retour vers Dieu. Ici, c'est l'aspect spécial. On étudie les vertus théologales, foi, espérance, charité, avec les dons du Saint-Esprit. Puis on étudie toutes les vertus, ensuite. Saint Thomas fait une très grande étude de toutes les vertus. Puis ensuite, les états. Les différents états dans lesquels l'homme peut s'épanouir. C'est ce qu'on appelle ordinairement, vous voyez ici, théologie dogmatique, ici, théologie morale. Mais ça, c'est une distinction, comme je vous l'ai dit hier, subséquente à saint Thomas, et je crois qu'il ne faut pas la prendre. Personnellement, je la trouve désastreuse. Il y a une théologie scientifique. Et la tertia pars, la troisième partie, 1, 2, 3, le traité du Christ. Nous sommes en face d'un ordre de théologie scientifique. Pour connaître le mystère de Jésus, il faut savoir ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. D'où nécessairement, première partie Dieu, deuxième partie l'homme. Troisième partie, le Christ. Le Christ comme sauveur. À cause du péché. L'homme ne peut pas réparer par lui-même le péché premier, le péché originel. Il faut donc un sauveur. Et ce sauveur, c'est le Christ. Alors voyez bien, cet ordre est un ordre d'intelligibilité. Alors, je vais tout de suite lire ce point de départ, vous allez tout de suite comprendre, de la troisième partie donc. Saint Thomas donne ce petit prologue. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en délivrant son peuple de ses péchés, ainsi que l'annonçait l'ange, s'est découvert à nous, donc s'est dévoilé à nous, comme la voie de la vérité, par laquelle il nous est désormais possible de parvenir à la résurrection et à la béatitude de l'immortelle vie. Jésus est la voie. Il est le sauveur. Il est le pont. Il y a un déluge partout. Il y a un pont qui ne permet de passer au-dessus. Pour achever l'exposé théologique que nous avons entrepris, il apparaît donc nécessaire. Je vous ai dit, toute est point de vue de la nécessité. Il apparaît donc nécessaire, après avoir traité de la fin ultime de la vie humaine, des vertus, des vices et de considérer maintenant le Sauveur des hommes en lui-même et dans les bienfaits dont il a gratifié le genre humain. Donc, c'est simple, il a traité avant le mystère de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus intelligible pour nous. Puis le traité de l'homme, il a vu ce que c'était que l'homme pécheur, le péché originel. Le péché originel est traité là. La loi est ici, elle est avant le péché originel, c'est sûr. Non, la loi après, je veux dire, pardon. La loi et la grâce. Et la grâce nous est donnée par le Sauveur, par le Christ. De la grâce, on remonte au Sauveur, la source de toute grâce. Oui, c'est un ordre qui peut nous dérouter beaucoup. C'est pas du tout l'ordre de la théologie mystique. C'est l'ordre d'une théologie scientifique. Et si vous réfléchissez bien, vous voyez que c'est impossible, si on admet une théologie scientifique, de prendre un autre ordre. Mais voyez, on a tout le temps avant d'arriver au Christ. C'est pas l'ordre du tout d'une catéchèse. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas du tout l'ordre d'une catéchèse. C'est l'ordre du théologien qui a du temps devant lui, au Moyen-Âge. Théologie scientifique. Ça ne veut pas dire que cet ordre n'a plus de valeur pour nous. La théologie, si elle veut être une sagesse, si elle veut aller jusqu'au bout des exigences de la théologie, doit nécessairement passer par la théologie scientifique. Plus ou moins, mais elle doit passer par là. C'est un acquis. Je comprends très bien que quand on veut aller très vite, on a un peu de rancune contre saint Thomas, qui nous empêche d'aller très vite, puisqu'il nous donne une théologie scientifique. Au siècle de la vitesse, saint Thomas, parce que c'est la théologie scientifique. On aimerait mieux immédiatement regarder l'écriture et faire une théologie à partir de l'écriture. Je comprends très bien. Il faut du temps avant de se familiariser avec saint Thomas. Qu'elle demandait aux étudiants. Il faut du temps. Moi, je fais cette petite expérience constante à Paris, où je donne un petit cours de théologie. Bon, quand j'explique, ils comprennent. Quand je lis saint Thomas, tout le monde perd pied. Ce sont des gens intelligents. Mais leur culture humaine est beaucoup plus avancée que leur culture de croyants. Hélas, beaucoup d'entre nous, nous sommes des gens cultivés, nous appartenons quand même à une civilisation cultivée, et notre culture théologique, très peu de choses, un petit panier, pas très lourd, pas grand chose. Bon, je continue. Nous enseignons d'abord, nous envisagerons d'abord le Sauveur lui-même. Ah, c'est très intéressant. Il regarde le mystère de l'incarnation que sous l'aspect du Sauveur. Nous regarderons d'abord le Sauveur. Je dis ça par rapport à toute la théologie d'aujourd'hui. Puis ces sacrements, par le moyen desquels nous nous sauvons. Enfin, la consommation de la vie immortelle à laquelle il nous faut parvenir par la résurrection. Vous avez donc traité du Christ, traité du Sauveur. Le traité des sacrements, qui est le traité de l'Église, vu dans une théologie scientifique. Ne disons pas que saint Thomas a oublié l'ecclésiologie. Pas du tout. Mais saint Thomas a fait un traité de théologie scientifique. Or, la seule chose qui est scientifique dans l'Église, c'est les sacrements. C'est pour ça que tout est ramené aux sacrements. Et puis ensuite, les fins dernières. C'est très pensé, vous savez, la somme. Et c'est difficile de corriger la somme. On peut très bien sauter au-dessus, mais la corriger, c'est très difficile. Au sujet du Sauveur, donc le traité qu'on appelle le traité de Christologie, le traité du Christ, c'est le traité du Sauveur. Au sujet du Sauveur, il nous faudra étudier, premièrement, le mystère de l'incarnation. Qui est le mystère d'un Dieu fait homme. Pour notre salut, c'est le mystère du Verbe incarné. La parole dans l'évangile de Jean, dans le prologue, le Verbe est devenu chair. Ekeneto sarx, en grec. Il est devenu. C'est très fort. Le Verbe est devenu chair. Si ce n'était pas révélé, on n'oserait pas le dire. La révélation va beaucoup plus loin que l'effort du théologien, puisque l'effort du théologien dépend totalement de la révélation. Il essaie de comprendre toute la richesse de la révélation. Donc, premièrement, le mystère de l'incarnation. Deuxièmement, au sujet des choses par lesquelles le Sauveur. En second lieu, la vie et les souffrances de Dieu incarné.